Alors, on va lire, pour ceux qui ont la Bible avec eux, dans l'Ancien Testament, deux versets que vous connaissez certainement, qui sont tirés du livre d'Ecclésiaste. Ça sera l'introduction. Chapitre 3, les versets premiers. Voilà. C'est facile à trouver, l'Ecclésiaste est à peu près au milieu de la Bible également. Et je lis ceci. « Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir. » Amen. Et entre le temps de la naissance, pour reprendre les propos de Salomon, et le temps de la mort, chacun pourrait le dire aussi bien que moi, il y a un certain temps, plus ou moins long. On est bien d'accord avec ça? Plus ou moins long. Alors, je me suis penché un petit peu, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, que peuvent penser les hommes sur le temps de la vie? Puisqu'en fait, c'est ça le thème, le temps de la vie. Et je vais citer simplement des pensées de deux auteurs. Le premier, c'est celui de Félix Lope de Vega, que vous connaissez certainement, non? Qui a écrit un livre qui est « Amour et honneur ». Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de 1612. Et il a écrit ceci, « L'âge passe comme le soleil qui laisse l'ombre derrière lui. Le lever, c'est la jeunesse. Le coucher de l'astre, c'est la vieillesse. » C'est bien dit, ça. Hein? Je ne sais pas s'il a fait Polytechnique, lui, mais hein, il a présenté la chose d'une manière formidable. Alors, je continuais mes petites recherches. Et moi, je suis d'accord avec ça, parce que c'est la réalité. La jeunesse, c'est le soleil. Et puis, après, ben, on devient comme la neige. On blanchit du haut, et puis voilà, quoi. De Robert Sabatier, tiré du livre de la déraison souriante. Ça, c'est plus près que nous. Et ça prouve aussi que les temps changent, mais la mentalité et les pensées changent. 1991, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Qu'a-t-il écrit cet homme? Comme le sage, laissons passer les jours sans les compter. Eh bien ça, je ne suis pas d'accord. Parce que la Bible dit le contraire. Apprends-nous à bien compter nos jours. Ah, et je préfère, en fait, et c'est ce que nous allons voir en portant quelques petites explications, me pencher sur ce que finalement la Bible, elle, qui est la vérité, qui est autre que ces hommes, qui ont leur intelligence, bien sûr, il ne faut pas leur enlever, mais qui en même temps se contredisent et qui, pour certains, sont à côté de la vérité, il est bon de se tourner vers la vérité propre, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ainsi, comme nous venons de le citer dans le psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Non seulement on doit bien compter nos jours pour arriver à la sagesse, qui doit être la sagesse divine, et en fait à nous préparer pour entrer dans la gloire. Et ça, cela ne peut se faire que par la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, si je vais dans Jacques au chapitre 4, verset 13 et verset 12, je vous lis ça dans d'autres traductions, mais le message est le même, il est dit ceci, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, parce que ça arrive, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons beaucoup d'argent. » C'est le 21e siècle. Vous voyez, les temps passent, mais l'esprit des hommes ne change pas, en fait, l'esprit de l'être humain. Et voilà ce que dit Jacques. Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? Voilà. Dieu nous parle cet après-midi. On peut penser ce qu'on veut, mais la vérité, elle est là. Et Dieu nous dit, sais-tu, à vous comme à moi, sais-tu ce que te réserve l'avenir? Vous ne pouvez pas le dire, hein? En tout cas, moi, je ne peux pas le dire. Remarquez, il y a des gens qui, pour connaître l'avenir, vont les payer. Ceux qui peuvent lire dans la longueur de vos mains. Hein? Moi, Il faut, de temps en temps, il faut un petit peu réfléchir. Ces gens-là, ils sont omnubilés, ou ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles parce que quand ils vous prennent la main, vous savez, ceux qui disent la bonne aventure, là, ils vous prennent la main. Ils vous disent, monsieur ou madame, moi, j'ai jamais donné une main à une telle dame, hein, mais on sait très bien comment ça se passe. Monsieur, madame, vous avez une ligne de vie qui est longue. Va revenir un petit peu tout à l'heure. Une vie, moi, quand je regarde ma main, je vois 2 ou 3 traits. C'est tout. Pas vous. Je me demande comment elles le font pour lire dans les mains des gens. Mais il y a mieux. Les gens qui vont consulter de telles personnes, et la dame, elle dit, je vais vous dire votre avenir dans le marc du café. Alors moi, j'ai une confidence à vous faire. Peut-être que vous aussi, hein, tous les matins, j'ai le marc de café dans le petit truc là qui réceptionne le café, vous savez, pour faire le filtre. Voilà, j'ai trouvé le filtre. Et quand le café est passé, je regarde le filtre, et quand je regarde le marc de café, qu'est-ce que j'y vois? Du noir. Et je me dis, ou je me suis dit depuis longtemps, comment les gens qui regardent dans du noir peuvent dire à quelqu'un qu'il a la vie en rose? Qui l'attend? C'est incroyable ça! Comment ils font? Moi, je ne vous parle pas de marc de café, je ne vous parle pas de ligne de mer. Je vous dis simplement, faites confiance à Dieu. Quant à votre avenir. Alléluia. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais ce que nous savons, si nous sommes avec Dieu, si nous marchons avec Jésus, notre avenir est assuré. Et notre avenir est assuré parce qu'ils nous ont fait une promesse, c'est qu'il serait tous les jours avec nous et qu'il nous amènerait dans la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est formidable. Alléluia. Quand vous allez chez ces gens-là, il faut y laisser à peu près 500 euros. Quand je me retourne à la parole de Dieu, il me dit, le salut est gratuit. La paix est gratuite, la joie est gratuite, le bonheur est pour vous gratuit. À vous de choisir. J'ai choisi. Et je suis heureux. Et je ne suis pas le seul cet après-midi. Alléluia. Et la fin de ce verset dira ceci. S'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie? Et la réponse est donnée. Je ne vais pas vous la demander. La réponse est donnée. Une légère brume visible, quelques instants, et qui se dissipe bien vite. En fait, une vapeur. On peut appeler ça une vapeur de fumée, une vapeur d'eau. Vous avez dû certainement, et peut-être plus les dames, les sœurs, que les messieurs, à moins qu'ils fassent la cuisine, mais il y a un instrument qui est utile hein, dans la cuisine, ça s'appelle la cocotte minute. Vous avez vu ça? Et la cocotte minute, bon, quand ça boue, vous avez le petit, je crois que c'est toujours comme ça, hein, petit bidule en haut qui tourne, et la vapeur s'échappe. Vous avez remarqué ça? Et puis ça s'échappe fort. Mais combien de temps le reste visible, la vapeur? Quelques secondes. Et là, la parole de Dieu qui nous place devant l'évidence nous dit, ta vie, ma vie, elle est comme une vapeur. C'est-à-dire que ça ne dure que quelques instants, que quelques temps. Le temps que Dieu veut nous accorder. Et ça doit nous faire réaliser bien des choses. Dans le psaume 39, verset 6, il dit... l'auteur du psaume dira, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Hein? La largeur de la... Je vais vous amener, j'espère que vous n'allez pas être triste, hein, à regarder votre main dans le sens de la largeur cet après-midi. Vous ne voulez pas? Non, dans ce sens-là, Michel, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et la largeur, pas la longueur, ni la hauteur. La largeur. Et je me suis permis de mesurer la largeur de ma main. Eh bien, ma vie, elle fait 9 centimètres. Alors, je ne sais pas où je suis arrivé, parce que je crois que je suis au tracard. Il doit me rester 2 centimètres. Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous vous rendez compte? Maintenant, quand vous allez regarder votre main, vous allez dire, ouh! Combien? Waouh! 4,5. J'ai vécu la moitié de ma main. Non? Si, vous allez voir tout à l'heure. Car des fois, il faut être très explicite pour comprendre que notre vie, en fait, elle nous est prêtée par Dieu pour que nous travaillons à notre salut pour retourner vers la gloire de Dieu, mais qu'en fait notre vie, et je reprends les termes qui sont donnés dans la Bible, elle n'est rien. Rien. Ah, bien sûr qu'il faut prendre soin de notre vie. Et là, dans le texte, il est ajouté « Et ma vie est comme un rien devant toi ». Et il est même ajouté « Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle ». On n'est rien. On ne fait que passer sur cette terre. À nous de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'est qu'en fait, si nous considérons, mais il faut prendre soin de notre vie, hein, mais si nous considérons que notre vie, en fait, elle n'est rien, elle a quand même une valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur, il nous la prouve en nous envoyant Jésus, en le faisant, car il faut prendre les termes, en le faisant monter sur la croix. Car la vie de Jésus, la mort de Jésus, c'est le don de Dieu. Il nous a envoyé Jésus, qui a été fidèle et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et par son sacrifice et par l'envoi de Jésus-Christ qui prouve l'amour de Dieu, aujourd'hui, cette vie qui, apparemment, Dieu nous le dit, n'est rien, a pour lui une grande importance. Elle a une si grande importance qu'il nous a envoyé Jésus, le Sauveur du monde, c'est-à-dire ton Sauveur personnel. Et ta vie qui est décrite comme un rien va devenir une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Parce que tant qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, nous avons une vie de péché et de pécheur. Et le péché nous condamne aux yeux de Dieu. Mais si nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, alors nous prenons de la valeur aux yeux de Dieu, et vu que nous acceptons Christ comme notre Sauveur personnel, l'amour de Dieu fait qu'il nous accueillera dans la gloire, et Jésus nous dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Mais ne disons pas, j'ai le temps. Non, le temps nous est compté. Est-ce que c'est précis, c'est clair? Le temps nous est compté. Ecclésiaste au chapitre 5, versets 13 et 14 dira, « Si ses richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, en ce qui concerne l'homme, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. » Pourquoi je cite ce verset? C'est parce que bien des gens pensent plus, c'est légitime quelque part, mais pensent plus à réussir dans leur vie, à avoir plus que nécessaire, comptant sur une vie qui va durer, ça personne ne peut le dire, on l'a souligné, et même quand parfois avec ces gens-là on parle de l'amour de Dieu, vous dire ne vous inquiétez pas, si je meurs, tout ce que j'ai acquis passera à ma descendance. Ce qui n'est pas sûr. Ce qui n'est pas sûr. Et encore je dirais, permettez-moi de dire entre parenthèses, pourvu qu'à la descendance, s'il y a des héritiers, pourvu que cela se passe bien. Vous voyez? Le Seigneur nous parle. Et le Seigneur nous dit, le temps est court, ton temps est court, ton temps est compté, ton temps est dans mes mains. Quand il veut, Dieu peut couper le fil. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je serai prêt pour partir avec lui? Ou est-ce que je reste dans mes affaires, dans mes soucis matériels, etc., pour acquérir davantage? Je crois que les gens aujourd'hui, plus que jamais, devraient plutôt penser d'abord à réussir leur vie spirituelle qu'à penser à la richesse terrestre. Dieu n'a jamais dit que nous ne soyons pauvres. C'est pas écrit ça, je ne pense pas, je ne me rappelle pas l'avoir lu. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il est tous les jours avec nous pour nous bénir, pour nous aider. Et il est même écrit, ce qu'il dira à Josué, ne t'éloigne pas de ce livre, hein, du commandement, des lois. Ne t'éloigne pas de ce livre et tout ce que tu entreprendras réussira. Mais là, ce que Dieu est en train de dire à Josué, fais-moi passer le premier dans ta vie et obéis à mes lois et tout ce que tu entreprendras réussira. C'est bien pour vous cet après-midi, hein? Vous voulez la réussite? Si vous me dites non, je ne vous crois pas. Parce que tout être humain voudrait la réussite, soit pour soi-même, soit pour les autres. Et c'est possible, à condition que quoi ? Que vous acceptiez Christ comme votre sauveur, que vous écoutiez ses lois, que vous les observiez, que vous les mettez en pratique, que vous le fassiez passer premier dans votre vie, et vous verrez la gloire de Dieu et la bénédiction de Dieu. Vous savez, je vous parle comme ça, mais il y a un exemple, et si je me trompe, le frère tout à l'heure me dira, mais il y a un homme qui s'est converti à Dieu. C'était un riche homme d'affaires, et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin. Mais ce gars, il avait une entreprise qui est tombée en faillite, mais il connaissait Dieu. Et il a prié le Seigneur de tout son cœur. Il a dit « Seigneur, si mon affaire se relève, eh bien, je serai fidèle en toute chose et je te donnerai la dîme. » Et dans son action de foi, parce que c'était un homme qui a été fidèle, Dieu l'a béni. Dieu a commencé à relever c'est-à-dire son entreprise. Et là, il a commencé à donner ce que la Bible demande, 10%. Alors là, je vais raccourcir, hein, si vous pouvez trouver le bouquin. Et à la fin, pour aller jusqu'au bout, au début, il donnait 10%. Et à la fin, puisque Dieu bénissait son affaire par rapport à sa foi et par rapport à son engagement, à la fin, il donnait 90% et il gardait 10%. Dites pas tous alléluia là parce que. Mais voilà un gars, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait ce matin. Un gars, il avait tout ce qu'il voulait, il avait même un avion. C'est le patron, je crois que ça existe toujours, de Caterpillar, les gros engins Caterpillar, les grues, les camions, tout ce que vous voulez. C'est un Américain, le pauvre. Donc Dieu le bénisse. Un Américain. Oui. Mais ce gars-là, il avait même un avion. Il se déplaçait en avion personnel. Et ce gars, il allait voir les usines. Il allait voir ses ouvriers. Il parlait avec eux. Il n'y avait pas de grève chez lui. Il arrivait, il réunissait tous ses ouvriers. Et que faisait-il ? Il leur prêchait l'évangile. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Dieu le bénissait ? Il n'avait pas honte d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et ses affaires ont prospéré, ont grandi. Maintenant, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde ou pas. Non, il n'y est plus, hein, c'est bien ça. Oui. Donc, voilà un exemple que l'on peut citer. Faisons passer Dieu en premier dans notre vie. Soyons obéissants à la parole. Et tout ce que nous entreprendrons trouvera la bénédiction de Dieu. Mais la plus belle des bénédictions, c'est quoi ? C'est d'arriver dans la vie éternelle. Et cela, il faut prouver à Dieu qu'on l'aime et qu'il a la première place dans notre cœur. N'est-ce pas le premier des commandements ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Et quand il a cette place-là en nous, quand il prend toute la place, vous pouvez être sûr que derrière, il y a la bénédiction. Alors, il faut être honnête aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'autres petites complications dans votre vie, mais Dieu vous donnera la force de les surmonter. Amen. Parce qu'il y a des fois des petits coups qui nous tombent sur la tête, imprévus, mais Dieu est là. Et quand Dieu est là, permettez-moi cette expression, tout va. Il suffit de lui faire confiance, comme on l'a chanté tout à l'heure. Dans le psaume 90, verset 10, puis je vais m'arrêter parce qu'il ne faut pas être trop long. Qu'est-ce qu'il est écrit là ? Dans le psaume 90, verset 10, il est dit « La durée de notre vie s'élève à 70 ans ». Et pour les plus robustes, à 80. C'est chouette, hein ? C'est court. Oui, oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est court. Je me suis livré un petit calcul. Vous voulez que je partage mon calcul avec vous ? Là, vous êtes content, mais peut-être tout à l'heure, à la fin de mon calcul, vous serez moins content. Donc, 80 jours. Donc, ce qui veut dire que de 0 ans, puisqu'on est, on ne peut pas dire que c'est un an, on a un an après qu'on soit né. D'accord. Alors, de 0 à 80 ans, savez-vous combien de jours cela vous fait à vivre ? Ah, vous ne l'avez jamais fait, ça ? Ben, je suis heureux de le partager avec vous. 28 800 jours. Comme on dit dans un certain pays, c'est pas bézef, hein. C'est... Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire c'est pas beaucoup. Oui. Bon, là, je n'ai pas compté les années bissextiles. Donc, vous avez peut-être un rab de 5 ou 10 jours. Mais on reste sur 28 800. Alors, écoutez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, parmi nous? Personne n'a 20 ans? Bon, écoutez bien. 20 ans, c'est un quart de 80. J'ai bien calculé, là. Donc, un quart de 80 de ma vie égale à 7200 jours. Hein? Mais ça, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en reste plus que 21 600. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont 40 ans parmi nous? N'ayez pas honte, oh. Je ne le dirai à personne. Il y en a qui ont 40 ans, ils n'osent pas lever la main. Bon, au cas où vous auriez 40 ans, ou si vous êtes dans la tranche de 40 ans, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez vécu la moitié de 28 800. Ce qui est 14 400 jours. Ce qui veut dire aussi qu'il ne vous en reste plus beaucoup. Il vous en reste. Vous qui êtes fort en maths. Il vous en reste 14 400. Et là, vous pouvez faire un point et dire, punaise, mais 14 400, je suis à la moitié. Qu'est-ce que ça a passé vite? Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que plus on avance dans l'âge, plus ça va vite. Ouais. Vous savez, quand on est jeune, on dit, enfin, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais quand on est, vivement que j'ai 18 ans, enfin, de mon temps, c'est vivement que j'ai 21 ans, c'est-à-dire la majorité. Mais quand vous avez 25 ans, vous dites, oula, ça commence à aller vite. Ça devient de plus en plus vite quand vous commencez à vous marier. Ça devient de plus en plus vite quand vous avez des enfants. Et puis ça devient de plus en plus vite quand vous devenez grand-père. Et puis ça devient plus rapide quand vous êtes arrière-grand-père. Vous calculez, waouh. De quelque part, on est réjoui, on dit, oh, c'est moi qui ai fait tout ça. Quand on regarde la descendance, oui, avec l'aide de Dieu, c'est sûr. Mais c'est là qu'on dit que le temps va vite, et c'est là qu'on dit aussi, merci Seigneur de m'avoir donné la grâce d'arriver jusque-là. Amen. Alléluia. Vous croyez que je vais m'arrêter? Non, et si vous avez 60 ans, qui c'est qui a 60 ans là? C'est ça? Bien, c'est le bon âge. Il y en a deux qui ont osé lever la main. Vous avez raison, mais vous avez quand même vécu trois quarts de votre vie. Oui. Moi aussi, d'ailleurs, je suis dans cette tranche-là. J'ai dit tranche, hein. J'ai pas dit tranche, hein, attention, hein. Dans cette tranche-là. Ce qui veut dire que j'ai vécu, comme nos amis, 21 600 jours. Et si Dieu me fait grâce d'aller jusqu'à 80, il ne me reste que 7200 jours. Et c'est là que je me dis, Seigneur, merci pour tout ce que j'ai vécu avec ta grâce. L'avenir est devant moi, il est court. Mais je peux encore te servir et me préparer pour aller au ciel. Alléluia. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont plus de 80 ou s'approchent des 80? Non, il n'y en a pas qui ont... Bon, alors si jamais vous dépassez les 80, c'est durable. Ah oui, c'est que Dieu est bon avec vous. Enfin bon, si on veut, parce qu'avec l'arthrose, l'arthrite, mais le Seigneur guérit tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, alors moi je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ne tardez pas à vous tourner vers lui, parce que ni vous ni moi, nous ne savons si nous arriverons à 80. Puisque juste avant, le Seigneur a dit, je l'ai lu avec vous, il y en a qui partent à 70. Tiens, là je vais m'arrêter là dans les calculs, parce que 70, ça fait quand même 10 ans de moins. 10 ans de moins, il faut les enlever au jour qui reste. Alors Seigneur, donne-moi de t'être fidèle, donne-moi de marcher avec toi, je veux te donner mon cœur pour que je puisse te contempler dans ta gloire, parce que tout le monde peut-être n'aura pas la joie de connaître, d'après vous, de connaître ce qu'a connu le brigand sur la croix. Oui ou non? Qu'a-t-il connu le brigand sur la croix? Une expérience merveilleuse. Lui, c'était un mécréant, un voleur, un tueur. Peut-être, ce n'est pas écrit, mais on peut le comprendre comme ça. Et sur la croix, il est crucifié à côté de Jésus avec son compagnon d'œuvre, un peu plus loin. Le compagnon d'œuvre, là, se moquait de Jésus. Mais lui, sur la croix, il a compris que tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, jusqu'à ses derniers instants de vie, c'était pas bien. Il va reprendre son camarade sur la croix. Et il dira, nous aussi, là, nous sommes en train de souffrir, mais nous le méritons, nous méritons ce châtiment. Et il ajoute derrière, mais lui, là, Jésus, lui, qui est en train de mourir à nos côtés, lui, Jésus, n'a rien fait de mal. Il est en train de reconnaître la seigneurie du Seigneur Jésus, et il va reconnaître qu'il est en même temps son sauveur. Et dans les derniers instants de sa vie, ce brigand sur la croix a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Alléluia. Et le Seigneur, je dis Alléluia parce qu'on connaît la suite. Et le Seigneur, qui justement connaît les cœurs et la sincérité des cœurs, dans un dernier effort aussi, il va se soulever, il va parler à cet homme et il va lui dire, je te le dis en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Alléluia. Quelle grâce. Cet homme, il est parti de la terre, a fermé les yeux. Il savait où il allait. Mais vous, qui êtes là cet après-midi, est-ce que vous savez où vous allez après le départ terrestre ? Ne pensez-vous pas avant qu'il ne soit trop tard ? Car ni vous, ni moi, je le répète, nous ne pouvons dire que nous atteindrons l'âge de 80. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Mais aujourd'hui, par contre, il est écrit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tourne-toi vers lui et fais l'expérience du brillant. Reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ta vie, afin qu'il te change, afin qu'il te transforme, afin qu'il ôte ton péché, afin qu'il mette en toi l'espérance de la vie éternelle. Parce que le sang qu'il a versé sur la croix, c'est un sang qui lave et qui nous purifie de tout péché. Il nous transforme par l'action du Saint-Esprit, il nous transforme par l'action de sa parole. Il fait de nous des créatures nouvelles. Nous ne serons plus des mécréants, mais nous serons des enfants de Dieu, héritiers de la vie éternelle. Dieu, aujourd'hui, nous rappelle et nous dit ceci au travers de Actes au chapitre 17, verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Et cet homme-là, c'est Jésus. Jésus qui t'ouvre les bras cet après-midi, Jésus qui veut te sauver, Jésus qui te dit tu ne sais pas le temps que tu as à vivre aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le temps du salut, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de devenir enfant de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Que personne ne puisse entendre lorsqu'il comparaîtra devant le Seigneur, que personne ne puisse entendre cette phrase combien terrible pour celui qui l'entendra. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas, je ne connais pas » parce que Dieu parle à votre cœur par son esprit. Et il vous dit « avant qu'il ne soit trop tard, tourne-toi vers moi et sois sauvé pour l'éternité. » Nous allons prier ensemble, Seigneur.